Merci Thomas, merci à vous d'être venu. Je suis très honoré d'être invité par le Collège de France. C'est des choses rares. Thomas m'a demandé de choisir quelque chose sur les ressources naturelles. J'ai choisi un problème très simple sur lequel je travaille depuis peu. Donc, vous aurez le privilège de voir comment un projet de recherche en sciences économiques commence. Donc, je travaille là-dessus avec une économiste de l'INRA qui s'appelle Vera Zaporozetz et nous sommes tous deux à l'École d'économie de Toulouse. Donc, pourquoi parler d'irrigation aujourd'hui? En fait, c'est un problème relativement simple. Donc, je ne voulais pas d'un problème compliqué avec des contraintes écosystémiques, des effets spatiaux, des effets dynamiques, etc. C'est un problème relativement simple et pourtant qui n'est pas très bien traité, très bien géré dans le monde, et en particulier en France, mais en fait, c'est la règle générale. C'est dommage. C'est dommage pour un économiste. Les économistes n'aiment pas les choses qui ne sont pas bien gérées. On trouve que c'est un gaspillage, que c'est dommage, qu'on pourrait créer plus de richesses, que la nature serait mieux préservée si on gérait mieux l'irrigation. C'est bien sûr, je pourrais faire appel aussi à toutes ces histoires de changement climatique, mais le problème existe indépendamment du changement climatique. Le changement climatique va simplement rendre les choses plus incertaines dans le futur, et donc donne de la valeur à des réformes de gestion de l'irrigation qui créeraient des systèmes plus flexibles, plus adaptables. Et aujourd'hui, on a des systèmes très peu adaptables, et il y a des efforts dans le monde entier pour améliorer ça. Donc, quelques chiffres, hein, l'irrigation, c'est important. Selon les pays, en moyenne, disons 20% des terres, mais dans certains pays, 90%. Souvent, les cultures les plus productives, les plus importantes, le riz en Asie, mais même en France, ça représente une bonne partie de la production, en particulier du maïs. Cela, c'est évidemment un utilisateur d'eau qui est très majoritaire dans certaines saisons. Et comme je le disais, ce qu'on constate, c'est que les systèmes d'allocation de l'eau d'irrigation sont généralement pas des systèmes où on paierait un prix pour l'eau, des systèmes parfois locaux de répartition, exactement comme a parlé Thomas, de système de marchandage local, un système parfois très ancien. Dans la plupart des pays, ces systèmes ont été remplacés par l'intervention de l'État qui distribue des licences, qui autorise les agriculteurs à prélever de l'eau. Bien sûr, en cas de sécheresse, ces licences perdent un peu de leur intérêt puisqu'on ne peut pas prélever autant d'eau que prévu, donc on va appliquer des coefficients. Vous pouvez prélever 50% de ce qui était prévu, ou 10%, ou 90%, ça dépend des zones, des régions. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. Quelques pays ont créé des marchés pour l'eau, la Californie, le Chili, l'Australie, on parlera de ça aussi. C'est un exemple de réforme plus flexible. En France, donc, par rapport à la surface agricole totale, c'est assez faible, 6%. 40% de cette surface est réservée au maïs. Malgré tout, ça représente, vous voyez, des chiffres très importants. Donc, 50% de la consommation d'eau, ce qui est un peu différent du prélèvement. Hein. En France, on distingue la consommation et le prélèvement. La consommation, c'est le fait de faire disparaître l'eau. Elle n'est plus utilisable après. Elle disparaît dans l'atmosphère ou dans le sol. Le prélèvement industriel, par exemple, typique, c'est prendre de l'eau pour refroidir une centrale électrique ou nucléaire, puis la rejeter dans la rivière quelques heures après. C'est compté comme un prélèvement, mais pas comme une consommation. On a actuellement une tentative de réforme depuis 2006, donc d'un système d'autorisation individuelle, celui que j'ai décrit il y a quelques secondes, vers un système où on instaure des organismes uniques et qui est un système beaucoup plus flexible, je le décrirai plus tard. Donc les organismes uniques sont des organismes en charge d'un bassin ou d'une sous-région. C'est très variable, ils peuvent être publics, privés, ça peut être une coopérative d'agriculteurs, ça peut émaner d'un parc naturel, et ils ont beaucoup de possibilités pour gérer cette répartition locale de l'eau. Donc ce dont je voudrais parler aujourd'hui, puisque je me dépêche quand même un peu, D'abord, rappeler les défauts d'un système de rationnement uniforme, rappeler les défauts et les avantages d'un système de marché, essayer de promouvoir un troisième système qu'on a appelé les classes de priorité, qui permettent peut-être d'échapper aux défauts des marchés et aux inefficacités du rationnement uniforme, et enfin parler un peu d'économie politique, parce que, comme vous le savez, c'est difficile de réformer les choses dans le monde entier, c'est le cas partout, en France, comme en Californie ou ailleurs, hein. Mais dans le cas de l'agriculture, c'est particulièrement vrai. Il y a des lobbies très puissants, très bien organisés, et une négociation qui est très difficile avec les représentants de ces professions. Bien sûr, vous pouvez me poser des questions, hein, je suis là aussi pour réagir à vos demandes. Donc, comment on procède? Alors, moi, en économie, je suis un peu du côté théorique des choses. Donc, je raconte des histoires. Raconter des histoires, les Anglais disent des fables. En français, on dirait plutôt des histoires. Ce n'est pas forcément des histoires pour enfants. On peut les formaliser, il peut y avoir plein de maths derrière. Aujourd'hui, je vais juste définir quelques variables, mais il n'y aura aucune équation, je crois. Et donc, je raconte une histoire. Nous sommes un groupe de fermiers et nous avons accès à de l'eau dans la rivière. La rivière nous procure l'eau, c'est merveilleux. En septembre, en juillet, août, septembre, octobre, on a décidé qu'est-ce qu'on va planter. C'est important, hein, c'est une décision importante. Certaines terres peuvent rester comme des prairies, par exemple, pour l'élevage. D'autres peuvent être utilisées pour faire du maïs. Et le maïs aime bien l'irrigation. Ça le rend extrêmement rentable, extrêmement productif. Et cette décision-là, je vais l'appeler X. Donc chacun d'entre vous, monsieur I égale 1, monsieur I égale 2, etc., aura un X1, X2. Qui est une décision que j'ai appelée ex ante. Il va falloir prendre des décisions ex ante avant de savoir en fait ce qui va se passer dans le futur. Dans le futur, très simplement, imaginons au printemps, à la fin du printemps, il y a un choc climatique, sécheresse ou pas sécheresse, il fait chaud, il fait pas chaud, il y a des orages, il n'y a pas d'orages. Ça détermine la quantité d'eau qui est disponible, c'est une quantité totale qu'il va falloir se partager. Et donc notre problème, en tant qu'économiste, c'est de déterminer des règles institutionnelles qui permettent de partager cette quantité d'eau entre les fermiers en fonction de ce qu'ils ont choisi initialement en particulier, donc, en fonction de leurs besoins, X, en fonction de la quantité d'eau disponible, en fonction du climat, S, et ça va déterminer finalement, cette allocation va déterminer finalement le revenu de chaque agriculteur. Donc c'est important. Et donc en gros, le revenu d'un agriculteur, ça dépend de sa décision initiale X, de la quantité d'eau individuelle qu'il aura obtenue, un petit Q à comparer au grand Q qui est en haut, de l'état du climat, est-ce qu'il a besoin d'eau ou pas, et de ses caractéristiques propres. Alors les fermiers peuvent être hétérogènes. Ça peut être les fermiers qui sont plus ou moins capables, plus ou moins compétents pour utiliser leur capital, leur méthode d'irrigation, etc. Ça peut être aussi les différentes parcelles que chaque fermier gère, qui sont plus ou moins fertiles, plus ou moins adaptées à l'irrigation, plus ou moins proches de la rivière. Et donc tous les cas sont particuliers. Et ça, c'est un problème d'économie. C'est un problème d'économie relativement simple, dans le sens où finalement, on cherche à partager un gâteau. Le gâteau, il s'appelle grand Q. Partager un gâteau, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur. On a des tas de systèmes pour ça. Un peu plus compliqué parce que le gâteau, il est un peu aléatoire. On ne sait pas de quoi le climat sera fait demain. Donc peut-être le gâteau sera très abondant, peut-être que le gâteau ne sera pas abondant du tout. Et encore un petit peu plus compliqué parce que, ex ante, les gens vont prendre des décisions qui rendent le gâteau plus ou moins désirable, plus ou moins adapté à la demande ex post. Donc ces décisions X compliquent un peu le problème. Donc je vais travailler à l'intérieur de cette histoire. Bien sûr, après, une fois qu'on aura bien compris cette histoire, on peut l'étendre, avoir plusieurs groupes d'agriculteurs, plus ou moins en amont, en aval, sur la rivière, etc., examiner les échanges entre eux. Et aujourd'hui, je resterai avec cette histoire. Donc, il va falloir l'accepter. Je suis désolé, c'est désespérément pauvre. Et pourtant, on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc je vais passer en revue trois systèmes. Un système de rationnement uniforme, un système de marché et le système de classe de priorité auquel Enfin, que j'aimerais promouvoir, parce qu'il ne me paraît pas si mal. Donc, un système de rationnement uniforme. Donc, c'est très simple. Une fois qu'on constate qu'il y a une certaine quantité d'eau disponible, on va la répartir selon les besoins. Les besoins, ici, dans ma petite histoire, ben, finalement, chacun a un certain nombre d'hectares de maïs à irriguer. C'est X1, X2, XN, et ben, je vais les repartir selon le nombre d'hectares. Ça pourrait être tout à fait raisonnable comme système. Donc, ex post, quelqu'un qui n'aura pas planté de maïs ne recevra pas d'eau parce qu'il n'a pas besoin d'eau. Quelqu'un qui a planté beaucoup de maïs recevra beaucoup d'eau parce qu'il a besoin de beaucoup d'eau pour son maïs. Maintenant, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, ben, il aura une part de l'eau qui est quand même plus importante parce qu'il a planté beaucoup de maïs. Alors, ça pose un certain nombre de difficultés. Il y a un peu de jargon ici, bien sûr. On va distinguer des inefficacités ex post et des inefficacités ex ante. Donc, ex post, ce qu'on voudrait faire ex post, c'est une fois qu'on a observé les choix initiaux des agriculteurs, les X, et une fois qu'on a observé la quantité d'eau globale Q majuscule, eh bien, il va falloir répartir ça. Et donc, une manière, bon, une définition de l'efficacité, c'est de répartir l'eau de façon à rendre la somme des revenus des fermiers la plus élevée possible. Ici, vous noterez que je m'abstrais de toutes les considérations de redistribution. Je me dis que, bon, quitte à faire quelque chose, autant que ça donne un maximum de profit dans l'ensemble, et après nous verrons, nous séparons les problèmes en deux, si vous voulez, c'est une méthodologie très classique, nous verrons comment redistribuer ces profits entre les agriculteurs, si on a des impératifs d'équité ou des choses comme ça. Et simplement maximiser la somme des profits. C'est un système pas complètement, une idée pas complètement idiote pour l'efficacité. Si on peut produire plus de profits, peut-être qu'on peut les redistribuer de façon à ce que tout le monde soit plus content. Donc, si vous acceptez aussi cette hypothèse, qui est grosse, hein, qui est importante, on montre facilement que le rationnement uniforme, c'est pas bon, ex post, c'est curieux. Hein. On a l'impression de donner à chacun selon ses besoins, mais en fait, les agriculteurs ont choisi. On peut. À la base, en fait, le rationnement ex post, ça vient du cas où les agriculteurs sont identiques. Ils ont tous les mêmes soucis, ils ont tous fait les mêmes choix. Et finalement, bah, à la fin, il y a 50 000 mètres cubes d'eau à partager, il y a 50 agriculteurs, on donne 1 000 mètres cubes à chacun, et c'est normal. C'est l'idée de tout le monde a les mêmes besoins, tout le monde a fait les mêmes choix, tout le monde obtient la même chose. Et ça peut être efficace, en fait. Mais c'est le seul cas où ça sera efficace. Alors pourquoi ? Ben, parce que simplement, les fermiers sont différents, les parcelles sont différentes. Il y a des parcelles qui ont été plantées en maïs, qui ont besoin d'eau, mais qui sont des parcelles mal adaptées à cela. Et peut-être qu'on devrait donner moins d'eau à ces parcelles qu'à une parcelle sur une terre très fertile, qui est proche de la rivière, pour laquelle il est facile de donner de l'eau, etc., etc. Et donc, dès que vous avez des différences entre les fermiers, vous avez ce souci qui vient, qui est que le rationnement uniforme, ce n'est pas très efficace, ce n'est pas une bonne façon de procéder. On devrait plutôt donner plus d'eau à ceux qui sont capables de produire plus de profits, de revenus à partir de cette eau. Toujours dans le souci de créer un maximum de richesse au niveau de ce groupe. Et puis, il y a la question d'ex ante qui est un peu plus originale. Donc, la partie précédente est bien connue. Cette partie-là est un peu moins connue. Ex ante, c'est la notion d'efficacité qui est la plus générale. On veut maintenant, non seulement que répartir bien l'eau ex post, mais on veut aussi que les gens prennent les bonnes décisions ex ante, les choix de parcelles à mettre en maïs irrigué, les choix de parcelles à mettre en prairie. Et le rationnement uniforme n'est pas non plus accenté efficace. Et ça, c'est un thème qui est très important. En quelque sorte, un mauvais système, un système qui n'est pas bon ex post, a aussi des effets accentés. Les gens vont manœuvrer pour bénéficier du système ici. Et les fermiers, un peu comme dans la tragédie des communs, comprennent très bien que plus ils mettent de terre en maïs, et plus ils ont droit à de l'eau dans le futur. Et donc, il y a une possibilité pour que chaque fermier augmente un petit peu les terres qu'il met en maïs de manière à toucher plus d'eau dans le futur. Quand vous faites l'effort de réduire vos surfaces en culture vulnérable, en culture que vous aurez besoin d'irriguer, En fait, vous ne gagnez pas grand-chose. Vous libérez de l'eau pour vos voisins, pour les autres. Et là, vous avez encore un exemple de tragédie des communs. Pourquoi je me priverais, finalement, de le faire? Tout le monde le fait, donc tout le monde le fait. Et ça conduit à trop de fermiers qui investissent trop dans des cultures à irriguer. Alors, la dernière ligne, simplement pour dire, oui, on peut faire des maths avec ça et montrer, en fonction de la probabilité d'occurrence, du rationnement, etc., des choses comme ça, que cet effet est plus fort quand l'eau est souvent rationnée. Alors, un peu de retour à la réalité, donc de la fable à la réalité. En France, on peut décrire le système comme ça. D'une part, il y a une redevance prélèvement, qui est connu pour être très faible. Effectivement, c'est de l'ordre du centime au mètre cube. Donc, une consommation par hectare, c'est entre 500 mètres cubes par hectare et 6000 dans les endroits les plus chauds en France, les plus arides. Donc, même avec 6000 mètres cubes, vous payez 60 euros par hectare. C'est pas beaucoup par rapport à une marge brute qui est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros par hectare, typiquement. Enfin, c'est pas des coûts très importants. Ce ne sont pas des coûts suffisamment importants pour amener les gens à beaucoup réfléchir sur leur matériel d'irrigation ou la manière dont ils vont irriguer. Etc. Pour donner un ordre de grandeur d'importance, nous payons aussi des redevances prélèvements en tant que consommateurs. Nous payons 21% du total des redevances... Non, 74% du total des redevances prélèvements. L'industrie, 21%, et les agriculteurs, 3%, alors même que leurs prélèvements sont beaucoup plus importants. Donc, puisque cette redevance prélèvement est largement insuffisante pour gouverner les choix, on a recours à ce rationnement uniforme. Donc, sur les 4 dernières années, on a récupéré 8950 décisions préfectorales de réduire l'irrigation. C'est très généralement, ce sont des pourcentages de réduction, 30%, 50%, 80%. Dans 1320 zones, on est très fort en France pour tout ce qui est administration, donc on a défini 1320 zones et chaque zone fait l'objet d'une surveillance et quand certains seuils sont dépassés, on prend des arrêtés préfectoraux. Ce qui est amusant dans une première lecture de ces chiffres, c'est que finalement dans la plupart des zones, on est en dessous de 5 décisions. Donc les décisions sont typiquement valides pour quelques semaines, de 1 à 3, 4 semaines. Donc il y en a plusieurs par an. Donc dans la moitié des zones, il n'y a pas vraiment de problème. Dans 3% des zones, on a plus de 30 décisions sur la période, 40 en fait en moyenne, ce qui veut dire 10 par an, dans une zone qui est une sous-partie d'un département. Ce sont des petites zones. 1320 zones, une zone représente un 13e de département, soit à peu près 4000 km², on va dire. Vous pouvez faire la même étude sur les départements, et il y a 4 départements qui se distinguent, qui ont eu plus de 500 décisions sur 4 ans, c'est considérable. Donc, on voit la concentration des problèmes dans certaines zones. Je voulais parler de ça parce que, si on veut parler un peu d'économie politique, il y a cette vieille idée qui date d'un très bon politologue, Olsen, qui a écrit un livre en 1965 là-dessus, et qui a créé toute une littérature économique sur l'étude des lobbies. Un lobby est plus effectif, plus... comment on dira ça ?
Efficace.
Efficace, oui, mais ça m'ennuie parce que efficace, je l'ai partout. Et plus puissant, oui. Si ses membres sont plus nombreux et plus homogènes, c'est assez intuitif, évidemment. Ça se vérifie empiriquement et c'est intéressant. Donc, quand vous regardez le rationnement uniforme, on vient de dire que le rationnement uniforme amène les fermiers à choisir une surexposition au risque, à trop investir dans les cultures irriguées. Et finalement, on peut se demander, c'est un des objectifs de ce projet, je n'ai encore aucun élément pour conclure là-dessus, sur l'importance de ces effets, mais est-ce que finalement, dans ces points chauds qu'on a isolé précédemment, est-ce que finalement les fermiers ne sont pas tous en train de surexposer au risque en investissant trop dans des cultures vulnérables de manière à avoir besoin d'eau et à constituer un lobby important, puisqu'ils sont très homogènes in fine, et à une situation qui se perpétue et qui n'est pas bonne, puisqu'on a une répétition des crises d'année en année. C'est quand même troublant de voir que chaque année, au même endroit, il y a une crise d'alimentation en eau qui réclame une intervention préfectorale. On devrait quand même pouvoir faire mieux. C'est l'idée.
Une décision qu'on prend, c'est de réduire l'eau.
Oui, alors, techniquement, on observe les débits des rivières, on en déduit de l'eau disponible, on enlève un débit d'étiage qui répond d'une part à des soucis de fonctionnement de la rivière en tant que système physique, d'autre part à des soucis de fonctionnement de la rivière en tant que système biologique. Il faut suffisamment de débit quand même pour entraîner les sédiments, etc. Mais il faut aussi du débit pour les poissons, les algues, les plantes, whatever. Ce qui reste est en principe partagé entre les fermiers. Bien sûr, les pressions sont très fortes ex post. En cas de sécheresse, c'est très difficile de faire respecter les débits d'étiage. Et la semaine dernière, la compagnie d'aménagement des coteaux de Garonne a payé une amende de 10 000 euros. Je crois que c'est une des premières amendes infligées en France pour un irrigant. Enfin, c'est une compagnie qui représente des milliers d'irrigants, en l'occurrence. On a payé 10 000 euros parce qu'elle avait violé les débits d'étiage de manière systématique. Donc, les choses évoluent, mais il faut rester patient. Voilà sur le rationnement uniforme. Donc, un système qui, non seulement, n'est pas efficace ex post, pas efficace ex ante, mais qui peut-être même crée des crises en lui-même. Il a le potentiel de créer des crises permanentes et trop nombreuses. Alors vous avez les économistes, ils arrivent et ils vont vous dire on n'a qu'à faire un marché. C'est trop facile, les marchés. Donc une règle de marché, ça serait on va donner des droits, on va reconnaître aux agriculteurs un droit historique. Et toi, tu as le droit à 10% du débit, toi à 5%. Je parle du débit parce que le débit est variable, donc on peut pas leur donner des droits sur des mètres cubes. On leur donnerait parfois trop de droits, parfois pas assez par rapport aux quantités disponibles. Ces droits sont donc tombent du ciel, peut-être de chroniques historiques, d'habitudes, peu importe. Ça n'a vraiment aucune importance à ce niveau-là. Et une fois que la quantité d'eau disponible est apprise, eh bien les fermiers sont libres d'échanger ces droits. J'ai droit à 10% de l'eau disponible, je trouve que c'est trop pour moi, je peux en vendre un peu. J'ai droit à 10% de l'eau, je trouve que c'est pas assez, je vais en acheter un peu. Il y a un marché, l'offre va finalement égaliser la demande parce que les gens vont marchander jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échange possible. C'est-à-dire qu'aucun acheteur n'a envie d'acheter un vendeur au prix que le vendeur réclame et vice-versa. C'est une règle assez simple dans laquelle il faut autoriser quand même des échanges de droits de propriété. Donc il faut créer ces droits de propriété et il faut les rendre échangeables. C'est pas si facile, mais bon. Pardon ?
Mais ça dépend du temps. Alors, en juillet, il y a besoin d'eau que...
Absolument. Donc c'est pour ça qu'on fait des fables en économie, des petites histoires. On simplifie. Là, il y a une seule période. Très bien, faisons 15 périodes. Donc le marché sera ouvert à chacune des périodes, il y aura un nouveau prix, on échange, je sais pas, semaine par semaine, ça devrait à peu près fonctionner. Mais je suis d'accord et je vais plus loin donner une liste de problèmes pratiques. En théorie, un système de marché fonctionnerait comme ça. Donc, on revient sur ce vieux leitmotiv des économistes. Un système de marché... ça a des propriétés d'efficacité très fortes. C'est ainsi, en particulier dans le cas de l'irrigation, parce que finalement, j'ai juste un gâteau à partager. Vous voyez, si vous... Je ne sais pas, il y a tellement de domaines dans lesquels les systèmes de marché paraissent évidents. Vous achetez 1000 vélos en Suède, Thomas Turner est aussi un fabricant de vélos, et vous les amenez à Paris et vous voulez les vendre. Oui, ça paraît logique de regarder les prix de vos concurrents, de peut-être faire de la publicité. Enfin, vous voyez, un système de marché, quoi. Ah bah oui, ça va faire baisser le prix des vélos à Paris. Ces 1000 vélos augmentent l'offre tout d'un coup. La demande étant restée la même, oui, le prix des vélos va un peu baisser à Paris. Bien, c'est comme ça que le marché équilibre l'offre et la demande. Et vous allez vendre tous vos vélos. Et il y a des gens qui sont contents de les acheter. Et en particulier, il n'y a pas de gens qui vont rester en disant « Moi, je voudrais un vélo et je ne l'ai pas eu. » Non, non. Parce que s'il le voulait, il aurait proposé 5 euros de plus et le prix aurait été différent. Etc., etc. Toutes ces histoires de marché, emploi pour le pain, pour les vélos, pour, même pour les maisons. Il n'y a aucune raison de ne pas les employer pour l'eau. Ici, il n'y a aucun problème avec le marché. Un marché serait efficace ex post parce que les gens qui vont vouloir acheter de l'eau au prix ex post qui va s'établir, c'est les gens qui produisent le plus de richesses avec cette eau. Et c'est justement ce qu'on veut. Ce serait efficace ex ante parce qu'on paye l'eau. Et ça, c'est la grosse différence avec le rationnement uniforme. Le système de marché est efficace ex ante parce qu'on anticipe ex ante qu'en plantant du maïs irrigué, il faudra plus tard acheter l'eau dont on a besoin. Et donc, on anticipe en tant que fermier, en fait, il faudra payer dans le futur un montant, certes aléatoire, on ne sait pas encore ce que ça sera, mais ça compte. Donc, je vais faire du maïs que si je pense que ma productivité en maïs est suffisamment importante comparée au paiement que je m'attends à faire dans le futur pour l'eau. Et donc, ça va aussi gouverner les décisions ex ante. Un autre aspect qui est sympathique dans cette histoire, dans mon petit groupe de fermiers, c'est que finalement, c'est les gens qui se transfèrent de l'eau contre de l'argent, mais tout reste à l'intérieur du groupe. Je n'ai pas besoin de taxation, d'intervention de l'État, etc. C'est juste des gens qui se mettent d'accord, et il y en a un qui dit « Je t'achète un peu d'eau, je te donne 500 euros, et tu me donnes 1000 mètres cubes dans la période du 7 avril au 14 avril. » Hop. Alors, quand on compare les deux systèmes, donc là, Thomas m'a demandé de ne pas faire de maths, donc il va falloir me croire une fois de plus. On peut jouer à comparer les deux systèmes et on a une comparaison très facile. En gros, les fermiers qui ne sont pas tellement productifs, qui ont des parcelles peu productives en ce qui concerne le maïs irrigué ou d'autres cultures irriguées, quand on passe du rationnement uniforme à un système de marché, vont choisir de réduire à la fois la taille de leur terre qui consacre une culture à irriguer, et bien sûr, ex post, ils vont avoir besoin de moins d'eau. Inversement, les fermiers les plus efficaces, ou qui ont les parcelles les plus fertiles, une fois qu'on prend en compte l'irrigation, eux vont augmenter leur spécialisation, leur exposition au risque, en fait, en plantant beaucoup de maïs dans des parcelles qui sont très efficaces et en réclamant, en achetant beaucoup d'eau à la fin. Donc on assiste à une spécialisation des agriculteurs. Bien sûr, tout ça dépend du fait que les agriculteurs sont hétérogènes. Si les agriculteurs sont homogènes, un système de marché n'a pas tellement d'intérêt. L'intérêt d'un système de marché, c'est d'amener à une réallocation des biens entre les gens qui ont besoin d'un vélo et les gens qui n'en ont pas besoin. Et finalement, sous certaines conditions, on montre que ça réduit la probabilité de crise, finalement, puisque globalement, il y a beaucoup de gens qui abandonnent le maïs irrigué, et les crises sont moins probables, et les profits globaux, bien sûr, sont améliorés. Alors, c'est exact, un système de marché n'est pas très pas très simple à mettre en œuvre en pratique. Il y a une raison, dans le cas de l'irrigation, c'est une des difficultés de l'irrigation, en fait. C'est que, il y a des années, en France en particulier, où il y a beaucoup d'eau, et personne n'en veut, en fait. Il y a trop d'eau dans les cultures. Le prix de l'eau est zéro. Le prix de l'eau d'irrigation, hein, pas le prix de l'eau potable, c'est très différent. Et il y a des années sèches, où tout le monde a besoin d'eau, parce que les années sèches sont accompagnées de températures élevées. Le monde est mal fait, voyez-vous. Et donc, le prix de l'eau, si on le mettait vraiment en place, ça serait très volatile. Certaines années, zéro. Certaines années, 1 euro le mètre cube. Des montants énormes. Et je n'ai pris en compte que mes N agriculteurs. Si je prenais en compte les industries ou les gens comme nous qui veulent remplir leur piscine, j'habite personnellement à Toulouse et c'est un sport très, très fréquent. Je ne sais pas combien un bourgeois avec d'honnêtes revenus toulousains est prêt à dépenser pour remplir sa piscine, mais c'est certainement supérieur à 1 euro le mètre cube. Si on se met à introduire de la concurrence entre les différents usages, les prix de l'eau sont très, très volatiles en cas de sécheresse par rapport aux années humides. Donc, si vous avez des prix de l'eau très volatiles, ben, le risque que subissent les fermiers est très important et c'est embêtant. Donc, on peut pallier cela par de l'assurance. On peut aussi s'amuser à créer des marchés spécialisés là-dedans, des marchés sur lesquels on réserve de l'eau à l'avance, des marchés sur lesquels on prend des options sur l'eau à l'avance. Bon, c'est, l'architecture du marché devient de plus en plus compliquée. Un autre problème, bien sûr, c'est qu'en cas de sécheresse, le jour où il va falloir annoncer aux fermiers que le prix de l'eau est passé de 1 centime à 1 euro, ça va être difficile à faire accepter à des fermiers qui sont dans des situations financières difficiles. Donc, en pratique, on a du mal à imaginer un tel système. Il faut, bien sûr, c'est une des grosses difficultés, il faut observer les extractions d'eau. Ce n'est pas si simple. Vous voyez, un pays comme le Chili y est arrivé dans certaines zones, mais ça réclame quand même la nomination de gens qui sont responsables des stations de pompage. Il faut identifier les stations de pompage. Il faut bloquer les stations de pompage. Il y a un cadenas. Et le monsieur responsable a une clé. Et quand un fermier arrive, il présente un certificat disant qu'il a acheté 1000 mètres cubes d'eau. On ouvre la station de pompage, on compte les 1000 mètres cubes, on ferme. Ce n'est pas si simple en pratique. Il y a des milliers de points de prélèvement en France. Il y a des points de prélèvement dans les rivières, mais aussi dans les nappes souterraines. Et puis il y a des droits acquis. Quand on a un puits, vous savez, on a un certain nombre de droits qui vont avec. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. On a obtenu, les agences de l'eau ont obtenu d'installer des compteurs un peu partout. Donc 90% des prélèvements sont à peu près comptabilisés. Mais ça n'a pas pour l'instant servi à établir des prélèvements financiers importants. Un point qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est que finalement, une réforme comme celle-là rencontre l'opposition des groupes d'intérêt. Parce que finalement, quand vous réfléchissez à ce que c'est qu'un système de marché, c'est aussi quelque chose qu'on peut illustrer et démontrer, c'est que c'est un système qui maximise en fait les possibilités de choix pour tout le monde. Curieux comme idée, mais c'est parmi tous les systèmes, le système de marché maximise les possibilités de choix pour tout le monde parce que la seule contrainte qu'il met, c'est que ces possibilités de choix soient cohérentes. L'offre est égale à la demande, c'est ça que ça veut dire. Les choix des agents ne sont pas incohérents entre eux. Et c'est la seule contrainte que le marché crée. Tous les autres systèmes administratifs, etc., ont d'autres contraintes. Ils sont obligés de respecter offre égale demande, bien sûr, mais parfois ils créent d'autres contraintes. Quand vous maximisez les possibilités de choix pour tout le monde, vous maximisez les possibilités de différenciation. Donc des agriculteurs qui faisaient du maïs vont peut-être se poser la question de faire de l'horticulture ou devenir pépiniériste, ou bien simplement de l'élevage. Et les régions vont se diversifier, en tout cas c'est un pari que je fais. Et les lobbies n'aiment pas ça, parce qu'évidemment un lobby des agriculteurs irrigants qui est composé non pas de 70% des agriculteurs dans une zone qui font tous du maïs irrigué, mais qui est composé de 10% des agriculteurs dans une zone qui font du maïs irrigué. Les 90% autres ont besoin d'eau et en plus ils font des cultures, pour certains d'entre eux, à très haute valeur ajoutée, donc ils sont prêts à payer très cher pour avoir de l'eau pour leurs fleurs, pour leurs arbustes d'ornement, pour différentes choses, pour leurs semences aussi. Ça crée des tensions internes aux agriculteurs et ça réduit les lobbies. Je ne sais pas quelle heure il est en fait. Ah oui, pas mal. Ça va ? J'ai déjà fait deux systèmes. Il en reste un. Courage. Alors, qu'est-ce que c'est un système de classe priorité ? Ben, de la même façon, je vous donne une définition. Ex ante, donc, au moment de choisir les différentes cultures que vous allez cultiver, les fermiers enregistrent leurs différentes parcelles dans différentes classes de priorité. Haute priorité, moyenne priorité, basse priorité, par exemple. Trois classes, pour illustrer. On pourrait faire 19 classes si on veut, mais trois classes devraient suffire. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Quand vous enregistrez un hectare dans une classe d'haute priorité, il va falloir payer quelque chose d'important. Mettons 1 000 euros, c'est à peu près l'ordre de grandeur. L'intérêt de ce paiement, c'est qu'il arrive ex ante. Il arrive à une période où, en principe, les agriculteurs investissent dans leurs revenus futurs, sans dette peut-être, mais ont de l'argent disponible. Il arrive pas, on n'aura pas de paiement ex post au moment de la sécheresse. C'est des paiements qui sont particulièrement difficiles à obtenir. Et donc, ex post, on va se retrouver avec une quantité totale d'eau disponible et on va la donner en priorité aux gens de la plus haute priorité, enfin aux parcelles de la priorité, qui vont pouvoir prélever une certaine quantité pour ces parcelles. Et puis, ce qui restera sera réparti entre les gens de la deuxième plus haute priorité, etc., jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, eh bien, on sera amené à appliquer du rationnement uniforme. Par exemple, s'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, eh bien, on va partager l'eau disponible entre les gens de la classe de plus haute priorité. Et les autres, eh bien, les autres, ils n'ont rien. D'accord ? Donc, s'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, vous comprenez l'intuition du système, si vous voulez. En rationnement uniforme, s'il y a 10% des quantités habituelles, chacun va toucher 10% des quantités habituelles. Dans un système de classe de priorité, les 20% d'agriculteurs de la plus haute classe vont toucher 50% de l'eau habituelle et les autres n'auront rien. Oui, je sais, c'est triste, mais avoir 10% de la quantité habituelle, c'est vraiment tellement marginal et tellement peu important qu'on n'y perd pas grand-chose. Ce qu'on gagne, c'est finalement, encore une fois, on dirige l'eau vers les agriculteurs qui ont choisi la classe de plus haute priorité. Et ces agriculteurs qui ont choisi la classe de plus haute priorité, c'est justement ceux qui ont payé le plus cher. Et s'ils ont payé le plus cher pour avoir accès à cette classe, c'est parce qu'ils pensent pouvoir produire beaucoup de revenus. Et encore une fois, on profite des différences de productivité entre parcelles et entre agriculteurs en mettant au point un système qui est apparemment moins équitable ex post, puisqu'on ne donne pas les mêmes choses à chacun, mais qui est beaucoup plus efficace ex ante. Donc, c'est une idée qui vient en fait de la régulation des marchés de l'électricité, donc un papier de Bob Wilson. Dans les marchés de l'électricité, vous avez le même genre de soucis parfois. Donc, il y a des lestages, il y a des unités de production qui sont en panne. Il va falloir rationner l'électricité. On pourrait rationner au hasard, comme on le fait très couramment dans la plupart des pays en crise du monde. On peut aussi rationner des gens qui auraient déclaré ex ante. Moi, en cas de besoin, je veux bien être rationné. Et donc, en revanche, d'autres établissements, comme les hôpitaux, etc., bénéficient de classes de priorité. Donc, c'est des choses qu'on a déjà mises en place pour l'électricité, pour dans d'autres domaines aussi. Les péages d'autoroute, il y a des classes de priorité. Vous payez un peu plus cher, vous avez droit à un pass, et vous passez plus vite. Donc, c'est une application des classes de priorité. Peut-être que je perds un peu de temps, mais bon, il faut s'amuser. Les péages d'autoroute, c'est complètement idiot. C'est tous le même prix. Vous avez plein de petites portes, et vous payez le même prix partout. Si à une des portes c'est marqué ici on paye trois fois plus cher, eh ben il n'y aurait pas la queue. Bah ouais. Alors les gens qui sont pressés, ils diraient bah ouais, je vais payer trois fois plus cher. Et les gens qui ne sont pas pressés, bah de toute façon, c'est pas très grave, hein. Ils ne sont pas pressés. C'est plus efficace. Vous voyez, c'est un peu obscène ce que je dis, hein, parce que c'est étrange. Vous avez pensé aux queues chez le médecin? Je ne sais pas si vous avez eu des enfants, moi j'en ai eu trois petits en même temps. Et faire la queue chez le médecin le mercredi après-midi quand on doit attendre 2h30 avec deux enfants malades, hein, ça laisse des souvenirs, hein, Thomas. Pourquoi on ne sort pas notre portefeuille? On dit, madame, vous devez passer, je vous donne 100 euros et c'est moi. Je ne sais pas, ça ne se fait pas. Bon, c'est encore une application des classes de priorité. Bon, c'est juste pour le plaisir de scandaliser. Les économistes aiment bien scandaliser, de toute façon, ils savent qu'on ne les écoute jamais. Donc, classe de priorité ici, revenons aux choses sérieuses. Donc, on a tout un modèle, des maths, okay. Et on montre des tas de propriétés intéressantes de ce système, en particulier qu'il est à peu près aussi efficace que le marché. Je vais discuter ça un peu. Donc, l'idée générale, c'est que, quand même, c'est sans doute politiquement plus facile de faire des classes de priorité. Il y a un côté raisonnable ex ante, qui est on paye ex ante et ex post, on n'a rien à payer. On obtient de l'eau ou pas. Il y a aussi un côté de surveillance qui est plus facile à assurer, puisque chaque agriculteur qui a droit à irriguer ex post va contrôler quand même un peu que ses voisins n'irriguent pas s'ils n'ont pas le droit d'irriguer. Il y a quand même une surveillance entre eux. Donc si ce groupe d'agriculteurs a obtenu 6000 m3, chaque agriculteur en interne est intéressé à faire respecter la répartition qui avait été l'objet d'un accord ex ante. Donc il n'y a pas en principe de conflit ex post. Je suis désolé, cher voisin, tu n'as pas voulu payer pour une classe de priorité haute. Tu n'auras pas d'eau, ton maïs est foutu. C'est pas facile quand même. Hein. C'est pas évident, mais il n'y a pas assez d'eau. De toute façon, le maïs est foutu. Il faut quand même s'en rendre compte. Donc le résultat d'efficacité, c'est à des limites. Hein. L'avantage du marché par rapport aux classes de priorité, c'est ceci. Il peut arriver, par exemple, en été, qu'il y ait des orages, et les orages sont très localisés. Donc peut-être qu'il va pleuvoir sur les terres de mon voisin et pas chez moi. On était peut-être identiques ex ante, donc on avait choisi la même classe de priorité. Ex post, on n'est plus identique, il a plus chez lui et pas chez moi. Donc on n'a plus les mêmes besoins. Or, mon système de classe de priorité va donner la même chose à nous deux, à chacun d'entre nous. Et donc le système n'est pas parfait. Ce qui ne va pas dans mon système, c'est que, alors que le marché s'adapte à ça, parce que le marché, le voisin se rendrait compte, il n'a plus chez lui, il n'a pas besoin d'acheter autant d'eau, tandis que moi, il n'a pas plus chez moi, j'ai besoin d'acheter plus d'eau que ce que j'avais prévu. Dans un système de classe de priorité, on ne va pas pouvoir le faire. D'accord, donc il y a quand même des inefficacités là-dedans. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire ici en termes à peu près intuitifs. En gros, si toute l'influence du climat sur les récoltes se réduisait à l'information qui est contenue dans la quantité totale disponible, ça marcherait très bien, parfaitement. Mais ce n'est pas le cas en général, comme dans mon exemple avec un orage qui peut arriver chez le voisin ou chez moi. La quantité totale d'eau dans les deux cas est la même, mais les besoins individuels ne sont pas les mêmes. Et les classes de priorité ne permettent pas de faire ça. Alors bien sûr, on peut toujours ouvrir un marché ex post et puis ouvrir un marché. En tout cas, espérer que je vais m'entendre avec mon voisin en disant tu avais droit à 500 m3, tu me les donnes et je te donne quelques centaines d'euros, je ne sais pas. Il y a des aspects légaux aussi hein, avec les marchés qui ne sont pas évidents et avec les classes de priorité aussi. Donc j'ai essayé de vous copier un texte. Je n'ai pas mis les accents parce que j'ai toujours eu du mal avec les accents et ce logiciel qui fait de si beaux transparents en anglais. C'est très flexible un organisme unique. Il y a plein de potentialités. Il y a beaucoup d'excitation en fait, autour de ça. Et ils se mettent en place, ils prennent des décisions. Ils sont chargés finalement d'une négociation entre parfois quelques 200 agriculteurs, parfois quelques milliers, et de décider qui fait quoi et qui aura quoi en fonction de ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas assez d'eau? Et donc, on les a autorisés à prélever une redevance, enfin, à organiser une redevance, qui est censée couvrir, en fait, leurs frais de fonctionnement et les frais de fonctionnement des réseaux d'irrigation, des réseaux collectifs. Donc, une partie forfaitaire, une partie variable, on voit que pour la partie variable, on peut faire pas mal de choses. On peut la déterminer à partir des superficies irrigables, des superficies irriguées, c'était le X que j'avais précédemment, du nombre de points de prélèvement, des volumes, des débits, des volumes ou débits communiqués par le préfet, en combinant ces paramètres, elle est le produit d'un taux applicable, hein, ou plusieurs de ces critères. On n'est plus très loin de paiement, donc il s'agit de paiement interne à l'organisme unique, aux agriculteurs. Les agriculteurs payent l'organisme unique et ces paiements peuvent être utilisés pour inciter les agriculteurs à faire les bons choix. Est-ce que dans cette partie forfaitaire, tout en haut, est-ce qu'on peut inscrire, c'est la partie forfaitaire à trois options, classe de haute priorité, classe de moyenne priorité, classe de basse priorité, il faut que je consulte des juristes, mais ça pourrait être une façon assez simple de procéder. J'ai soigneusement évité la question de combien de classes. Alors, je dis trois. Pourquoi trois? En fait, on peut aussi montrer que l'idéal serait d'avoir un nombre très très élevé de classes, mais évidemment pour des raisons pratiques c'est compliqué. Alors on calcule ce qu'on obtient comme gain sur les revenus totaux. Si on fait 3 classes, 4 classes, 5 classes, et on a des jolis théorèmes qui disent bah, finalement la perte de surplus est en 1 sur n au carré, où n est le nombre de classes. Ou si vous voulez, avec une classe, j'ai le rationnement uniforme. Hein, avec 2 classes, je réduis les pertes de 75% par rapport au rationnement uniforme, avec 3 classes de 90%. Et c'est très, très efficace. On peut par exemple construire ces classes à partir d'observations historiques. Donc si on veut que dans la plus haute classe de priorité, on soit quasiment certain d'avoir toute l'eau dont on a besoin, ben, on va réserver ça à un nombre d'agriculteurs assez petit ou un nombre de parcelles assez petit, peut-être 10%. La deuxième classe correspondrait, ça c'est les événements typiques sur le sud de la France, disons 8 années sur 10, il n'y a pas trop de problème. Donc la deuxième classe, ça serait calculé pour avoir encore 30% des agriculteurs, peut-être, ou 20%. La dernière classe, bah, elle serait gratuite, mais évidemment, vous n'aurez de l'eau dans la dernière classe que si les deux premières classes sont intégralement servies. Or, les gens des deux premières classes vont, sachant qu'ils sont dans les deux premières classes, augmenter leur investissement, augmenter leur engagement dans les cultures irriguées. Donc il y a peu de chances que quand on choisisse la dernière classe de priorité, on obtienne beaucoup d'eau. Ou si on obtient beaucoup d'eau, c'est que l'année est vraiment très très humide et on n'en avait pas besoin. Donc les gens qui ne veulent pas s'inscrire dans une classe de priorité ne paient rien, mais ils savent qu'ils ont plutôt intérêt à investir dans des cultures plus robustes qui n'ont pas besoin d'autant d'eau. Il y a une variante, donc on peut s'amuser à faire des schémas. Les chiffres ici sont complètement arbitraires. La variante consiste à prendre en compte les besoins d'assurance. Donc c'est vrai que c'est triste de laisser du maïs sur pied grillé au soleil, mais il n'y a pas assez d'eau. Alors on peut payer les fermiers en leur donnant une indemnité d'assurance. L'intérêt des classes de priorité, c'est que ça crée aussi des signaux qui sont vérifiables. C'est le préfet qui décide finalement. Il observe les débits, il dit il y a assez pour la première et la deuxième classe, mais il n'y a rien pour la troisième. Ça, c'est un événement observable qui fait l'objet d'un décret, c'est légal. Une compagnie d'assurance peut écrire un contrat d'assurance dessus. On peut dire, si le préfet prend tel type de décision, les gens de la classe de priorité numéro 3, qui ont souscrit un contrat d'assurance, recevront 500 euros par hectare concerné, etc. Ça peut rendre les choses un petit peu plus acceptables. Et puis, c'est bon d'un point de vue économique, c'est bon d'assurer les gens. Les gens n'ont pas envie de faire des cauchemars pendant toute l'année. Donc c'est bon de leur donner des possibilités d'assurance. Donc en gros, l'idée est de jouer sur les deux tableaux. Hein. Vous payez ex ante, vous payez à la fois pour avoir de l'eau dans le futur, l'eau reste risquée, et pour avoir une assurance, une indemnité d'assurance, au cas où vous n'auriez pas cette eau dans le futur. Un système comme ça, encore une fois, se rapproche de l'efficacité des marchés. Il est beaucoup plus simple à mettre en place. Et il a une chance d'être compatible avec l'organisme unique. Mais là, en fait, je vous dis des choses qui nous restent encore à vérifier. On commence tout juste à travailler sur ce programme de recherche. Bien sûr, il y a un aspect théorique d'extension des résultats, hein, plusieurs périodes, plusieurs groupes d'agriculteurs, des aspects amont-aval qui sont intéressants. Il y a des aspects qui sont les gagnants, qui sont les perdants, puisque là, j'ai soigneusement ignoré tout ça. Hein. Depuis le début, j'ai uniquement considéré comme critère pour juger d'une politique le fait qu'elle augmentait les profits globaux des fermiers. Ce n'est pas un mauvais critère, mais certainement qu'il y a des problèmes de redistribution. Donc, qui perd, qui gagne, qu'est-ce qu'on prévoit pour ça? La version pour le risque, l'assurance, je viens d'en parler. Finalement, il faut mettre des chiffres derrière. Qu'est-ce qu'on gagnerait? Si tous les agriculteurs sont identiques en France, on ne gagne rien. Hein? Voilà, en gros. Bon, maintenant, est-ce que tous les agriculteurs sont identiques? Est-ce que toutes les situations géographiques sont identiques? Et c'est ça qu'il va falloir chiffrer. On constate que les agriculteurs, même dans les mêmes régions, ne font pas tous les mêmes choix. Je peux utiliser cette information pour en déduire ce qu'ils feraient comme choix dans un système différent et essayer d'estimer les gains de revenus pour chacun d'entre eux. Voilà c'est le travail que je fais avec Vera Zaporozhets de l'INRA. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions...